L'histoire des religions. La genèse du monachisme. Par Bernard Vacherot, curé de Caylus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35. Nous nous étions quittés, Bernard Vacherot, la semaine dernière, en évoquant l'influence grandissante des maires du palais, qui se prenaient même pour des rois, au point de pouvoir les nommer.
Oui, bien sûr.
Bon, vous avez dit bonjour à Étienne et à Marcel, mais...
Oui. Oui, tout à fait. Alors, justement, il y avait donc l'institution des maires du palais, et les rois avait créé, avec l'accord forcé, disons-le, de l'Église, ce que l'on appelait la chapelle royale. La chapelle royale, alors, ne nous attardons pas sur le mot chapelle qui aujourd'hui, dans le sens où chapelle royale, veut dire lieu de culte, objet du culte, etc., etc. Non. Oui, il y a ça. Mais enfin, il y a surtout l'institution religieuse qui tourne autour de cela. Alors, dans cette chapelle royale, d'ailleurs, on voyait beaucoup de laïcs. Des laïcs et quelques ecclésiastiques ordonnés, je dis bien ordonnés parce que tous les ecclésiastiques d'autrefois n'étaient pas systématiquement ordonnés. Attention. Ayant pour rôle d'assurer le culte au service de la chapelle royale. Alors, parmi ces ecclésiastiques se trouvaient de nombreux moines. Et là, vous voyez, je garde le fil avec saint Benoît. Leur rôle a été non seulement liturgique, mais d'aider au culte des reliques.
Ah! Ah oui, alors ça, c'est un truc, le culte des reliques.
Oui.
Rock'n'roll.
Un peu. Il y a un peu une part de rock, le rocher, et de roll, oui. Alors, Maurice Proust, qui a été, au début du XXe siècle, un extraordinaire historien sur la Gaule mérovingienne, a d'ailleurs écrit un ouvrage qui s'appelle « La Gaule mérovingienne » aux éditions Gaillard et May à Paris. Il assure que la principale des reliques en Gaule est peut-être une des plus anciennes considérées et traitées comme telles, a été une chape dite de Saint-Martin de Tours. Bon, alors cette chape, qu'est-ce que ça veut dire, chape? Pourquoi le mot chape? Bon, bien sûr, on voit le vêtement liturgique, employé d'ailleurs en certaines circonstances et pas dans toutes. Par exemple, il est employé pour l'aspersion au début des grands messes d'autrefois. À l'heure actuelle, il n'est pratiquement plus en usage, Bon, alors, le mot de chape vient de cappa, terme latin signifiant chape, donc, qui a subi une christianisation. Parce que, en littérature profane, antique, c'est simplement un manteau. Alors, il devient, une fois christianisé, il devient ce qu'on appelle le sacrarium ou sacellum, terme qui en latin chrétien des plus traditionnels, des plus classiques si vous préférez, a pour sens celui de lieu consacré à la garde d'une chape étant la relique d'un saint. Vous voyez, donc le mot de chapelle évoque une sorte de bâtiment reliquaire d'une chape. Chape, chapelle. Voilà.
Et quoi, en latin, c'est la cape.
Cappa.
On chante à capella.
Non? Et oui. Le chant de la chapelle.
Absolument.
Qui était sans orgue, je le rappelle. Bon.
Digression, pardon.
Mais, oui. Digression qui était sans orgue. L'orgue n'apparaîtra d'ailleurs que beaucoup plus tard, vers le 9e siècle, dans les églises. Bon. Alors, nous revenons au terme de chapelle. C'est ainsi que les ecclésiastiques desservant ces chapelles, donc petites églises contenant la relique d'une chape furent appelées chapelains, et que de ce fait, de nombreux moines ont été les desservants de ces chapelles. Ils furent souvent ainsi désignés sous le titre de chapelains. Vous voyez ? Alors cela est d'autant plus intéressant que montre le lien existant entre les moines mérovingiens et donc les moines de Benoît et le rôle de chapelain des chapelles seigneuriales ou royales comme des servants aussi de ces chapelles conservant des reliques classées comme insignes, c'est-à-dire supérieures et particulièrement vénérables.
Alors qui décidait que c'était un authentique morceau de la vraie croix
il y avait d'abord une enquête canonique qui était menée sur l'histoire de l'objet en question, son parcours, on dirait à l'heure actuelle son CV, hein. Et il y avait quelques méthodes qui feraient rigoler largement aussi des scientifiques modernes, comme par exemple la reconnaissance par le feu. Bon, c'est-à-dire...
Vous vous souvenez de cette histoire d'Osphère dans l'ouvrage de Ken Follett qui disparaît plusieurs fois, et puis bon, on le remplace.
Bon, et c'est ainsi que on a voulu, alors au cours de l'époque médiévale, en Dordogne, à l'abbaye de Cadouin, voir si le suaire de Cadouin était authentique ou non, et on voit une représentation d'un moine et d'un autre tenant chacun un bout du suaire sur le feu pour vérifier si celui-ci brûlait, il était faux, si celui-ci ne brûlait pas, il était authentique. Ils se sont quelque peu débrouillés pour qu'il ne brûle point.
Ah, ils avaient les procédés d'ignification déjà au point.
Oui, voilà, bon. Alors, pour en revenir à ce lien, hein, nous voyons le terme apparaître d'abbé, abbé comme supérieur du monastère. Hein. Le terme complet le désignant a été celui d'Abbas Palatinus, c'est-à-dire abbé du palais, ce qui désignait le supérieur des religieux chargé d'assurer le culte de la chapelle royale ou palatine. N'oublions pas que c'était le vieux mot palais palatin, vous voyez, bon. Alors,
en français, on le traduirait par le père chapelain, en fait.
Oui. Alors, en latin classique littéraire, palais royal se dit domus regia, ou bien maison royale. Alors, on remarque donc, au travers de cette petite exposé d'étymologie, qu'au cours du 7e siècle, l'influence des moines et des monastères s'est considérablement augmentée et élargie dans le royaume de Mérové. Bon, est-ce que cet élargissement ne provoquera pas des distorsions, voire des choses pas très normales? Et c'est bien pour cela que, justement, Benoît fait sa règle pour éviter ce genre de diversion et qui pourrait risquer parfois de conduire au scandale. Alors, l'un des premiers Abbas Palatinus a été le moine Rusticus. Rusticus, qui a vécu sous le roi Clotaire II, roi de Neustrie, entre 584 et 629. Il est devenu, je parle là de Clotaire II, bien sûr, le seul maître du royaume franc en 613. Ce n'était pas un personnage recommandable, loin de là. C'était même un personnage épouvantable. Il a fait périr la reine Brunehaut, épouse du roi Sigebert, roi d'Austrasie. Alors, ce personnage qui était vraiment atroce, bon, a marqué l'histoire de l'église mérovingienne. Alors, à ma connaissance, du moins, alors là, je préfère rester très très prudent. À ma connaissance, rien ne permet d'affirmer ou d'infirmer l'idée que Rusticus ait été ou n'ait pas été moine. Mais au début qu'il l'avait été. Mais c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Alors, quoique très influents, les moines ne furent pas obligatoirement partie du conseil royal des rois mérovingiens. Mais ils furent consulteurs, c'est-à-dire consultés à titre de conseiller. Par contre, les évêques étaient membres du ministerium royal et y assistaient, accompagnés de leur familia ou famille, c'est-à-dire les conseillers, parmi lesquels pouvaient se trouver des moines. Alors tel était donc le contexte difficile, religieux, politique, social et juridique, dans lequel, débarquant de l'Ulster vers 590 en Gaule, Colomban vint former et fonder ses monastères.
Tout de suite après, où sont-ils donc, Charles Trenet?
Toute la semaine, je vis au fond de mon quartier. Je n'y vois qu'un mur, je n'en vois même que la moitié. Et dans le fond, là-bas, sur une corde à linge, des caleçons, des chemises qui font les singes. Je voudrais un jour quitter tout ça, voguer vers ce que je ne connais pas. Où sont-ils donc, tous ces pays dont on nous parle dans les chansons? Ils sont ailleurs, très loin d'ici. Nuit tropicale, clairs horizons, soleil de feu sur la mer rouge, palmiers géants de l'Hindoustan. Technicolor, mon cœur qui bouge, voudrait connaître tous tes printemps. Afin de mieux courir vers ces lointaines patries, j'ai dû voir mourir toutes mes économies. Mais au bout des terrains, au bout des grands paquebots, y a passé certains que des lieux très beaux. Y a des cafés, pas drôles du tout, qui chantent parfois pour faire des sous. Où sont-ils donc, tous ces pays? C'est mon refrain, c'est mon roman, la pauvre histoire de toute ma vie, la fredonne à mes clients. Leur pauvre cœur ont soif de rêve, et ma chanson les mène là-bas, aux îles perdues, le long des grèves, où le malheur n'existe pas. Où sont-ils donc, ces pays-là? Ils sont là-bas, là-bas, là-bas. Mais moi je sais qu'ils sont de faux pays dans des chansons. Où sont-ils donc?
Charles Trenet qui ponctue nos pauses dans l'émission de Bernard Vachereau sur l'histoire des religions. Alors, en 570, le débarquement, Saint-Colomban traverse la mer, arrive d'Irlande, et il vient d'ailleurs avec 12 moines.
Exact. Absolument, comme les 12 apôtres. Absolument. Et justement, arrivant donc sous la direction du roi Childebert II, hein, qui, je le répète, a été tout de même un grand roi, à ne pas confondre avec Clotaire II, qui était lui un assassin. Bon, Colomban va fonder, il arrive en Gaule, donc je le rappelle, vers 590, c'est un savant et c'est un grand orateur. Bon, il fonde un premier monastère, le monastère d'Annegret, sur la commune de Fauconnier, en Haute-Saône, Gaule, donc. Et rapidement, au vu du nombre de nouveaux moines, il se voit obligé de fonder un autre monastère, celui de Luxeuil, pour la construction duquel le roi Gontran, alors roi de Bourgogne, qui régna entre 561 et 592, et devint Saint Gontran, lui octroya les terres nécessaires prises sur son propre terrain. Mais cela ne peut pas encore suffire. Et il a fallu édifier encore un autre monastère, celui de Fontaine. Mais cet engouement des Gaulois pour les fondations et l'esprit monastique qui régnait ne fut pas du tout du goût des ecclésiastiques gallo-francs qui réservèrent un très mauvais accueil à ces moines et à leur monastère. Le prétexte, je dis bien le prétexte, hein, fut les rites très particuliers pour des gallo-francs de ces moines d'origine irlandaise.
Il fêtait pas que n'importe quand aussi.
Si vous voulez, nous sommes avec le celtisme. Hein. Bon. Bien. Alors, en particulier, voilà la célébration de Pâques, ce problème, et de toutes les fêtes mobiles. Vint ensuite une autre question qui ferait sourire aujourd'hui, la question de la tonsure des moines irlandais, qui était en forme de croissant, allant d'une oreille à l'autre, sans compter le grand nombre de leurs bénédictions et oraisons inconnues du clergé gallo-franc. Alors, Saint Colomban n'a pu faire autrement que de tenir tête au clergé gallo-franc, le ton réciproque est monté, et le roi Thierry II, petit-fils de la reine Brunehaut, roi de Bourgogne et d'Austrasie, entre à peu près 595 et 613, fut placé dans l'obligation de chasser Colomban de son royaume. C'est dire que ça devenait une sacrée pagaille. Alors, chassé, Saint Colomban erra en Austrasie et en Eustrie. Puis, il gagne, en 614, l'Italie, où il fonda le monastère de Bobbio, entre Tortone et Parme. Il y est décédé en 615. Alors, pourquoi parlais-je et fais-je le lien entre Colomban et Saint-Benoît?
C'est qu'il a fait une règle, lui aussi.
Et c'est qu'il a fait une règle qui était très austère, très irlandaise, et Benoît a repris cette idée de l'austérité de la règle de Colomban, mais en l'adaptant à l'Occident franc, l'Occident gaulois et surtout italien. N'oublions pas que Benoît de Nursie est un Italien. Il vit d'ailleurs tout le temps à Monte Cassino. Hein? Et les fondations bénédictines françaises sont postérieures à Benoît. Il n'en est pas le fondateur. Elles sont postérieures à Benoît. Attention. Alors, si Colomban a été chassé de Gaule, les monastères qu'il a fondés ne furent pas pour autant supprimés. Et il semble que cela est dû au fait que les successeurs de Colomban, comme abbé de ces monastères, se sont montrés beaucoup moins intransigeants que lui et plus souples envers le clergé gallo-franc. Alors, en effet, qu'est-ce qui conforte cela? C'est que, grâce aux abbés Eustase et Waldebert, successeurs de Saint Colomban, les monastères de leur ordre eurent une grande influence, tout particulièrement celui de Luxeuil. L'influence a été telle que de nombreux moines de ces monastères furent même élus comme évêques en Gaule. Rappelons que la vox populi, la voix du peuple, élisaient les évêques. D'accord ? Bon. Ce serait pas si mauvais, finalement, de nos jours, parfois. Bon. L'influence, donc, était énorme, et c'est ainsi que l'on vit même se fonder, alors à partir du 7e siècle, les premiers monastères mixtes où hommes et femmes, oui, je vous vois sourire, où hommes et femmes cohabitaient en des bâtiments séparés, certes.
Ah, ben, il fait peur.
Je pense pas que vous ayez eu très peur, figurez-vous. Mais côte à côte avec leurs abbés et leurs abbesses. Ça a été une grande nouveauté dans l'église gallo-franque et dans le monachisme occidental. Hein? Chose que vous n'auriez pas vue dans le monachisme oriental. Alors, en 629, Waldebert a succédé à Eustase comme abbé de Luxeuil et il donna à ce monastère une impulsion tout à fait nouvelle en lui appliquant quoi ? Je vous le donne en mille. La règle de Saint-Benoît. Mieux appropriée à leur ordre et à l'esprit des gallo-francs que de celle de leur fondateur Colomban. Ben c'est comme ça que donc ces monastères sont passés progressivement de l'esprit de Colomban à l'esprit de Benoît.
Qu'avons-nous appris aujourd'hui, quand même, que Saint Colomban a été reconnu par le Vatican comme le saint patron des motocyclistes?
Oui.
Ça m'amusera toujours, ça.
Oui, mais pourquoi pas, hein, mais pourquoi bien pas. Au contraire.
Hein. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer ce phénoménal historique du monachisme. Merci Bernard Vacherot.
Avec plaisir.
L'histoire des religions. La genèse du monachisme par Bernard Vacherot, curé de Caïdus et historien des religions. Tous les mardis sur CFM à 12h35.